Puisqu'on est entre nous, je peux vous faire une confidence. Le jour où j'ai réglé mon réveil à 7h un dimanche matin pour écumer une brocante et mettre la main sur un buffet en formica, un cendrier en bakélite turquoise estampillé Ricard et un vinyle de Nicole Croisi, avant de rentrer chez moi, d'enfourner un poulet et de monter de mayonnaise, je me suis dit simplement que les réveils précoces, l'intérêt pour le mobilier rétro et les sauces maison signalaient mon entrée sur l'autoroute de la quarantaine. Et puis j'ai découvert que l'obsession pour le vintage franchouillard et réconfortant était en réalité une tendance globale. L'authenticité, c'est dans la tête. C'est en tout cas la thèse défendue par l'un de mes invités de ce débat de midi, c'est le journaliste Jean-Laurent Casselli, qui s'est intéressé à la mode de la tête de veau, de l'œuf maillot et de la nappe à carreaux, à cette façon dont la restauration, l'urbanisme, le tourisme s'attachent à étancher notre soif du vrai, la tendance des vrais bistrots, des quartiers qui ont une âme, des voyages hors des sentiers battus, tout ça avec des guillemets. Une quête de l'authenticité qui se décline également à l'heure de l'apéro, où il est de bon ton aujourd'hui de picoler du picombière, de l'apérole, de l'absinthe, alors que franchement c'est dégueulasse. Comment la recherche du vrai est devenue un phénomène de consommation? On attend vos questions et vos réactions à la page débat de midi sur franceinter.fr. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ma critique des vieilles liqueurs, vous pouvez nous dire « Je suis Campari » sur Twitter, hashtag débat de midi. Peut-on fabriquer de l'authenticité? On en parle jusqu'à 13h.
Le débat de midi, Nadia Dame sur France Inter.
Et j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Bréjon de Saint-Quentin. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes enseignante, chercheure en restauration. Vous avez publié, c'était en juin dernier, le grand livre du marketing culinaire aux éditions d'Uno. Une première question rapide à propos de l'uniformisation de nos assiettes. Il y a eu la burrata, il y a eu l'avocat, il y a eu le thé matcha. C'est quoi le prochain aliment tendance dont on va devoir se gaver?
Bon, on en parlait tout à l'heure, mais c'est déjà tendance.
Oh,
il y a l'œuf maillot
micro,
et
antenne,
le poivre
oui,
vinaigrette, ouais, hors antenne. Et puis, à venir, dans très longtemps, comme on discutait, peut-être qu'on aura un retour au burger dans quelques temps.
Ça a disparu, le burger?
Ça a presque disparu dans des quartiers branchés, etc.
Donc, c'est saut 2018.
C'est saut 2018.
Avec vous, plutôt face à vous, Jean-Laurent Casselli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste sur Slate.fr. Vous avez publié en avril dernier Nos Fails, contre-histoire de notre quête d'authenticité aux éditions Arquet. Une enquête sur le storytelling, on peut dire ça, autour de l'authenticité. Une question, pourquoi pas avoir utilisé le mot faux plutôt que fake? Ça veut pas dire la même chose, fake et faux?
Ça veut dire exactement la même chose, mais pas à la même époque. C'est-à-dire que le faux, c'était la grande obsession des penseurs des années 60, 70, à l'apogée de la société de consommation française, des Trente Glorieuses. Et beaucoup de livres comme La Société du Spectacle, La Société de Consommation ont été obsédés par l'idée de faux. L'idée qu'on vivait dans un faux monde, à cause de ce nouveau monde très technique, très consumériste, très marchand. Et je pense que depuis quelques années, on vit un nouvel âge d'or de la consommation authentique, qui se crée en faux, justement, avec ce fake, avec cette accusation de faux, parce que cette fois, je pense que le fake est d'une autre nature. Il est plus lié, je pense, aux réseaux sociaux, à la profusion d'images et de flux de données qui nous assaillent plutôt que d'objets, ce qui était le cas dans les années 70. D'où l'idée de passer à fake pour montrer que le débat était plus contemporain. Voilà.
J'ai lu que vous aviez hésité à mettre en quatrième de couverture un slogan qui dirait « Vous reprendriez bien un dernier café latte avant la fin du monde ». Moi, j'aime beaucoup. Pourquoi vous avez renoncé?
Peut-être dans une réédition
future. Ça dit pas tout. Oui, ça dit pas tout peut-être de ce que vous évoquez dans le livre.
Non, mais ça dit une partie. C'est-à-dire que peut-être que c'était un peu trop ironique, parce que quand on parle d'authenticité, de consommation authentique, c'est vrai que l'accusation à laquelle on s'expose assez rapidement, c'est bon, voilà, c'est un petit peu des problèmes de riches, quoi. Mmh. Finalement, l'authenticité. Quand on a un frigo vide.
On va
vide,
y revenir, cette voilà. Accusation. Ouais. Ma troisième invitée, vous êtes doctorante en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales, Noa Berger. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez étudié en particulier le marketing de l'émotion aux côtés de la sociologue Eva Illouz. Marketing de l'émotion sont deux mots qui vont pas très bien ensemble. Ça veut dire que l'amour, le bonheur, la connaissance de soi, c'est des sujets qui étaient habituellement pris en charge par la philo. Aujourd'hui, ils sont investis par le capitalisme. C'est une marchandise, l'émotion, l'expérience.
Exactement. Alors l'idée de ce projet sur lequel que dirige Eveilouz et dans lequel je travaille aussi, c'est qu'on a l'émergence d'un marché qui marchandise non seulement l'émotion comme quelque chose qui accompagne les biens, mais comme le but même de la consommation. C'est-à-dire quand on part en vacances, ce qu'on va chercher, c'est une expérience émotionnelle, la relaxation par exemple. Et quand on va en thérapie ou chez un coach, ce qu'on va chercher, c'est la modification d'une émotion. Et la question de l'authenticité s'en sert aussi dans cette question d'une émergence d'un marché et d'émotions, d'expériences émotionnelles.
Je devance une remarque, vous l'avez soulevée, Jean-Laurent Cassidy, que pourront peut-être nous faire les auditeurs, effectivement, parler de mode du néo-bistrot, de la nappe en Vichy, des briques apparentes. Est-ce que c'est pas un problème de riches? Parce qu'on peut avoir le sentiment que ça concerne que des jeunes bobos parisiens à fort pouvoir d'achat et qu'au fond, c'est pas un sujet général et si important que ça. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ceux qui nous feront cette objection?
Alors, je pense que, bon, pour une part, ils auront raison, mais par ailleurs, plus sérieusement, la consommation authentique, c'est une problématique sociale qui, en fait, englobe l'ensemble de la société dans laquelle on vit. Je pense que c'est plus qu'un problème de riche, de classe sociale riche, c'est un problème de société riche. C'est quand une société est vraiment repue de biens, de consommation.
La surabondance, c'est ça ?
De surabondance, à chaque fois qu'il y a surabondance, alors évidemment pas pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un discours, par exemple, il y a des gourous qui nous disent qu'il faut se libérer des choses, qu'on a trop d'objets, qu'on a trop de meubles, qu'on a trop de voitures, etc. Donc dans un contexte de surabondance, on peut être sensible à l'envie de retrouver quelque chose de plus vrai, de plus fondamental. Et c'est pour ça que les sociétés qui sont dans des stades de développement antérieurs n'ont peut-être pas ou moins cette obsession de l'authenticité, parce qu'elles en sont encore une fois à remplir le frigo.
Il est midi 12 sur France Inter, le débat de midi est consacré à l'uniformisation des assiettes, des voyages, des intérieurs, des expériences. Lui, en tout cas, il ne ressemble à personne. On écoute Philippe Catherine, Être humain. C'était Philippe Catherine et ses allaitements, le débat de midi. Aujourd'hui, on se demande à quoi rime cette mode du rétro et comment est-on arrivé dans un monde où un jambon beurre peut coûter 8 euros. L'émission est préparée par Caroline Pomès.
Big Mama, c'est une restauration italienne qui table sur la happy food. La happy food, qu'est-ce que c'est? On s'est donné le défi avec Tigrane d'avoir 30 minutes de votre journée, quand vous venez par exemple déjeuner, pour vous donner du bonheur. Et ça, ça passe en premier lieu par ce que vous voyez. Vous rentrez dans un restaurant et sa première chose que vous voyez, c'est une grande cuisine ouverte au cœur du restaurant. Autour de cette cuisine ouverte, on vous montre le fait que tout ce que vous mangez chez nous, c'est 100% fait maison. Vous voyez nos chefs faire des pâtes fraîches maison à la main. Vous sentez le café qu'on torréfie tous les matins en point de vente. Et c'est toute la force de ce concept et de cette cuisine ouverte qui vous montre la qualité des produits, l'origine de tous nos fournisseurs. Notre jambon, il vient de San Daniele, d'un producteur qui s'appelle Lorenzo Bagatto, que moi je connais depuis très longtemps. Notre farine, elle vient de Ravenne. Notre huile d'olive, elle vient des Pouilles.
On vient d'écouter Victor Luger, c'est le cofondateur de Big Mama. Pour simplifier, Big Mama, c'est une chaîne de restaurants italiens qui exploite jusqu'à la moelle le filon du terroir italien et de l'artisanal et qui cartonne parce qu'on fait la queue pour y manger des pâtes à même la casserole. Jean-Laurent Casselli, c'est un phénomène, c'est pas le seul, mais c'est un phénomène que vous avez analysé, ce nouveau mode de restauration, de consommation.
Oui, tout à fait. Big Mama, c'est un des exemples que je cite le plus souvent dans le livre parce que je l'aime beaucoup, parce qu'il résume beaucoup des tendances actuelles. L'Italie, le goût pour la cuisine populaire, de la mama,
etc. Le fait main, on entendait le fait main.
Voilà. Et l'extrait est vraiment génial parce qu'on voit vraiment que ce qui ressort de tout ça, c'est l'obsession du vrai. C'est-à-dire que Big Mama, c'est vrai. Il y a des vrais Italiens. Ce sont authentiquement des serveurs qui ont été recrutés en Italie pour venir à Paris, puisque la plupart des restaurants sont à Paris. Il y en a un à Lille et un à Londres, pour servir les gens. Ce sont des recettes traditionnelles avec des fours à pizza, tout ce qu'on fait de plus traditionnel. Donc c'est important pour moi de le souvenir. On n'est plus dans un marketing, parce que quand on dit marketing, il y a l'accusation de fausseté. On se dit, oh là là, ces gens qui ont fabriqué un produit qui n'est pas vraiment authentique, pas vraiment tradit, puis ils nous font croire, ils nous vendent la sauce authentique. En fait, on n'est plus dans cette problématique-là aujourd'hui. On est plutôt, ça c'était les années 90-2000, c'était la publicité télé, c'était les grandes enseignes de restauration rapide à bas prix. Aujourd'hui, avec Big Mama et d'autres, on est plus dans la revendication de l'hyper-vrai, qui n'est pas soumise à une accusation de fausse. En fait, je pense que plus que déconstruire la vérité, enfin l'authenticité de la formule, il vaut mieux insister sur ce que ça dit de notre époque et cette obsession du vrai que partagent les clients, parce que c'est vrai qu'ils sont très nombreux à aller dans ces restaurants-là, et c'est un restaurant qui a une croissance vraiment vraiment impressionnante. Et donc je pense que là, encore une fois, la tomate est véritablement italienne et la burrata des Pouilles vient vraiment des Pouilles. Le paradoxe de l'époque, en fait.
C'est-à-dire qu'on fait pas semblant d'être authentique, on l'est et on en fait des caisses là-dessus.
Voilà,
on surjoue, on la fabrique pas l'authenticité, mais on la surjoue un peu.
Oui, on la surjoue, et ce qui est aussi nouveau à mon avis et intéressant dans la période qu'on vit, c'est qu'elle est en phase d'industrialisation, elle est en phase de massification, et c'est ce qu'on va voir aussi au-delà de la restauration, peut-être avec le tourisme, avec l'immobilier, avec les lieux de vie. C'est qu'on voit que des propositions qui étaient des propositions niches, assez haut de gamme, en tout cas assez qualitatives, sont en train, le marché essaye de les massifier. Et c'est ça qui est, c'est le moment qu'on vit en ce moment.
Virginie Bréjon, ce qui est intéressant avec Big Mama et d'autres, en l'occurrence pour ce qui les concerne, c'est que les fondateurs de cette chaîne de restaurants, ça devient une chaîne, ils ne sortent pas d'une école de cuisine, mais ils sortent de HEC. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça dit?
Ça permet aussi de rebondir sur ce que vous venez de dire, Laurent. C'est que
Jean-Laurent.
Jean-Laurent,
vous pouvez l'appeler Laurent, hein, si ça n'embête pas.
À la fin de l'émission.
Ça m'embête un peu.
Jean-Laurent, pour l'instant. On parlait marketing, et souvent, en effet, dans l'esprit des gens, marketing, c'est le marketing du faux, parce que le marketing, ce serait vendre plus ou alors vendre plus cher. Et il y a en effet un retournement aussi du marketing qui est créer des expériences qui répondent déjà aux besoins des consommateurs. Et ça demande une connaissance du métier marketing et de la discipline marketing assez aboutie. Ce qui fait que soit on est un restaurateur et on s'associe à quelqu'un qui a ce sens-là, de la sociologie, des tendances, etc. Soit on a ce sens-là et puis on se forme à la cuisine au dernier moment. Donc ce qui fait qu'il y a des écoles comme HEC qui ont vu tout un bastion de leurs élèves s'intéresser à la cuisine, partir dans les écoles de cuisine pour se former rapidement, ou alors en effet s'associer à des gens qui avaient de l'or entre les mains pour créer des expériences. Et puis il y a aussi tout un nouveau marché de la formation aussi à l'entrepreneuriat culinaire. On va créer des foodpreneurs, comme je les appelle dans mon livre. Et ces foodpreneurs, ils vont faire Ferrandi entrepreneurs, qui sont des formations liées
Ferrandi,
aux gens qui
sont... Ferrandi, c'est un chef, on peut le dire, c'est ça?
Ferrandi, c'est une école, c'est un peu le HEC de la gastronomie
à
Paris.
Pardon, autant pour moi.
Pas de souci. et qui est dans le 6e à Paris et qui forme les élèves depuis la formation continue jusqu'à aux élèves en reconversion. Et ils viennent de partout dans le monde pour ça. Et puis il y a aussi HEC qui s'intéresse, HEC Entrepreneur qui s'intéresse à la cuisine et qui d'ailleurs m'a demandé d'intervenir cet automne pour venir apporter mon expérience de la cuisine. Donc on voit que ces métiers-là qui ne se croisaient pas se croisent maintenant dans la formation.
Noah Berger, on a entendu dans l'extrait qu'on vient d'entendre l'expression happy food. Je ne connaissais pas la happy food. C'est quoi la happy food? Par opposition, il y aurait une nourriture qui rend malheureux et une nourriture qui rend heureux. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, cette idée assez intéressante et assez prépondérante, non seulement dans les marchés culinaires, et cette idée de bonheur qu'on peut d'ailleurs achever via l'authenticité, le bonheur de la simplicité. Donc dans le happy food, l'idée c'est que par la consommation peut-être quelque chose de simple, d'original, on accédera à une forme de joie, une forme de bonheur. Une idée qu'on voit aussi dans la méthode Marie Kondo par exemple, on se débarrasse des choses pour être plus heureux.
Marie Kondo, c'est la papesse du rangement qui incite à vider son appartement pour être plus heureux.
Exactement, et on voit cette même idée aussi avec la méditation. Et avec les retraits de Vipassana, c'est-à-dire l'idée de se vider et d'être plus simple, plus propre, pour être plus heureux aussi, pour faire de la place pour des sentiments positifs.
Jean-Laurent Casselli, qu'est-ce qui peut sonner faux dans ces restaurants? Parce que vous disiez, oui, ils ne font pas semblant, ils sont vraiment authentiques, et pour autant... Il y a quelque chose d'un petit peu agaçant dans ce phénomène-là. La tête de veau à toutes les ardoises. Qu'est-ce qui dérange dans tout
alors,
ça, malgré
alors,
tout?
En fait, c'est ce que j'appelle la malédiction de l'authenticité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on la recherche, c'est qu'on l'a un petit peu perdue. Et donc, à partir du moment où on la recrée, on la construit, ça risque de se voir. Ça risque de sonner un petit peu faux. Et je le vois avec les jeunes restaurateurs qui veulent tous, c'est très à la mode, avoir des restaurants en hommage à leur grand-mère ou faire des plats.
On peut citer Jean Humbert qui a ouvert un restaurant qui fait référence à sa mamie.
Un chef, exactement, qui s'appelle d'ailleurs Mamie. Voilà, d'ailleurs, c'est intéressant de voir le passage des années 90-2000 à aujourd'hui, où il y a encore une vingtaine d'années, on vendait de la grand-mère générique, j'ai envie de dire, quoi.
C'était Maminova.
Maminova, grand-mère fait du bon café. Bon, c'était pas notre grand-mère, mais c'était une grand-mère, ça suffisait. Maintenant, il faut que ce soit la nôtre, quoi. C'est-à-dire qu'on est allé un stade au-delà dans l'authenticité. Et ce que je trouve assez donc fascinant dans cette, par exemple, cette tendance des grand-mères qui en est une comme une autre de l'authenticité, c'est que pré-individuellement, les entrepreneurs sont plutôt sincères et pensent vraiment, je pense, aiment vraiment leur grand-mère. Mais c'est vrai qu'au 50e restaurant qui ouvre en hommage à sa grand-mère, on commence à être un peu agacé, se dire bon, ok, est-ce que c'est pas un peu une vague de fake,
c'est fausse authenticité,
c'est le groupe
qui agace davantage que les initiatives.
En fait, je pense que c'est un phénomène avant tout générationnel. C'est pour ça que moi, il m'a intéressé parce que je suis né en 80 et c'est l'époque où les McDo arrivent en France. C'est l'époque où la France se transforme sur le plan urbanistique, sur le plan de la consommation. C'est les années de globalisation en fait. Et toute cette génération s'est sentie un peu mal à l'aise avec la globalisation, à la fois la gobée quoi, la prise en compte. Et aussi la rejeter et essayer de créer quelque chose derrière et à côté. Et je pense que c'est ça qu'on vit en ce moment et c'est pour ça que cette nouvelle authenticité, cette nouvelle vague de recherche d'authentique, elle est à la fois vertueuse dans certains cas et elle a aussi un aspect un petit peu agaçant dans la mesure où à force de rejeter ce stade antérieur de la fausseté, et ben on finit, c'est un peu le paradoxe ultime, on finit par recréer quelque chose qui a l'air un peu emprunté, un peu trop construit. On le voit dans des quartiers où il n'y a plus que des restaurants authentiques, où on a l'impression d'être dans le Disneyland d'après
Disney.
Oui,
vous
parlez
de Disneylandisation de la restauration.
Oui, parce que...
C'est-à-dire du faux, en fait, du...
Oui, ou du vrai, plutôt du vrai, parce que justement l'accusation qu'on portait contre les parcs à thème, c'était qu'ils étaient faux, que tout était construit et que il y avait quelqu'un derrière le costume de Mickey. En fait, aujourd'hui, il y a plus vraiment de costume. En fait, on est face à la réalité nue et c'est ça qui est encore plus peut-être perturbant qu'avant.
Virginie Bréjean, si on veut vraiment se singulariser, se différencier, finalement, il faut aller au McDo ou chez Courtepaille. On en est là.
Alors, il va y avoir bientôt ça, parce que ça va devenir une authenticité, en effet, de ces années 80-90. Il y a un peu un snobisme à dire « j'ai regardé Plus belle la vie dimanche » et en plus, je me suis fait un drive chez McDo, parce qu'on assume cette espèce de contre-culture de la tendance. Mais je pense que pour parler plus sérieusement, si on veut se singulariser, le vrai marketing de demain, ce sera avant tout de promouvoir ce qui sera possible. Et ce qui sera possible, ce sera de toute façon de manger local, de toute façon de revenir aux sources, parce qu'on n'aura pas le choix. Et donc, si on cuisine les produits qu'on a chez nous, on a beau suivre une tendance, on sera toujours différent du restaurant d'ailleurs. Et c'est pour ça que les nouvelles franchises, elles sont aussi personnalisées, parce qu'on a une expérience globale, une image de marque, et ensuite elles se personnalisent en fonction des lieux dans lesquels qu'on habite et des gens qui les font vivre.
Noah Berger, il y a un mot qui revient souvent, c'est expérience. Est-ce qu'on va au restaurant pour faire une expérience ou simplement pour manger et éventuellement partager un moment de convivialité? Pourquoi est-ce que ce terme d'expérience, il revient aussi souvent à la fois dans le vocabulaire marketing de ces marques et puis aussi nous-mêmes, c'est un mot qu'on a tendance à employer assez régulièrement, on fait l'expérience de quelque chose?
C'est lié à cette émergence, à cette croissance encore d'un marché émotionnel, mais même quand on dit expérience, une expérience, ça peut être des choses assez différentes. Et ce qu'on cherche dans l'expérience culinaire va beaucoup changer. Et ce qui ramène peut-être à la question de banalisation, parce que vous avez demandé, quand on cherche quelque chose d'authentique, est-ce qu'on va aller chez McDo? C'est peut-être que ce qu'on va chercher dans l'expérience va changer. Donc si avant on mettait l'accent plus sur quelque chose de traditionnel, local, comme dans le yaourt mamie, et ben on va chercher des choses différentes. On va chercher par exemple une expérience qui est aussi éthique, où on a un sentiment moral qui vient avec. On va chercher quelque chose de plus vérifiable, authentifiable.
Donc, c'est-à-dire vérifiable et authentifiable.
Alors, ce qui se passe, ce qui est intéressant avec l'authenticité, c'est qu'il y a une forme de banalisation. C'est-à-dire, si on pensait à l'authenticité comme quelque chose de traditionnel, narrativisé, émotionnel. Et aujourd'hui, quand cette notion devient très répandue, quand on la voit partout, on bascule aussi sur des modes et d'authenticité, entre guillemets, objective, scientifique, pour justement se distinguer. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément chercher des nouvelles marchandises, mais on va chercher des nouvelles qualités dans ces marchandises. On peut vraiment aller à la source, on peut vérifier que ce qu'on consomme a été sourcé et dans des conditions éthiques, dans des manières morales, soi-disant. Et c'est ça que je veux dire par ça, authentifiable.
Une réaction d'un auditeur, Fred, qui a l'air assez remonté, qui nous écrit, entre autres choses, je voulais juste cet extrait-là, « J'accompagne des jeunes qui sont vraiment authentiques, les gens que je croise au quotidien sont authentiques, ils ne se posent pas toutes ces questions existentielles que se posent ces bourgeois citadins qui s'emmerdent. » Jean-Laurent Casselli, on a défriché un peu la question en début d'émission, mais si c'est les réactions que ça suscite, et que peut-être on n'a pas été totalement clair sur le fait que ça n'est pas totalement un débat d'entre-soi et de gosses de riches.
Non, parce que en fait, un des paradoxes de la recherche d'authenticité, c'est que pendant longtemps, ça a été plutôt associé en France au terroir, aux produits, alors au made in France, aux produits locaux, et tout ça, c'était une thématique plutôt JT de Jean-Pierre Pernaut, quoi. Et en fait, on est passé à un autre stade de la recherche d'authenticité, qui est plus urbaine, qui est plus branchée, c'est vrai, qui est plus jeune. Mais je pense qu'en fait, tout ça est lié. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facettes de la recherche de vrai. Chacun a la sienne, en fonction de sa génération, de sa culture, de son passé.
C'est pas un truc de jeune trentenaire, un peu, pardon pour le mot, mais un peu branleur. C'est pas un truc de gamin et de millénial.
En fait, je pense que ça s'est peut-être massifié encore une fois dans les jeunes générations qui ont grandi avec alors plusieurs choses, avec l'impératif écologique, effectivement, on en a parlé, avec une certaine méfiance vis-à-vis du marketing. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que pourquoi l'authenticité est une thématique aujourd'hui importante, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont immunisés contre les recettes d'avant, de la grande distribution, des marchés de masse, des enseignes de restauration franchisées. Donc du coup, il faut bien continuer. Donc il faut bien les séduire d'une autre manière. Donc en fait, le jeu, c'est un petit peu complexifié. Les règles sont plus exactement les mêmes. Moi, alors oui, ce qui m'intéresse, c'est les manifestations contemporaines de cette authenticité. Donc oui, forcément, je vous parle pas des visages qu'elle prenait il y a une cinquantaine d'années. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, pour finir sur l'accusation d'entre-soi, c'est que tous ces cafés, ces restaurants qui réinventent des formats populaires très marqués années 70, enfin après-guerre et Trente Glorieuses, que ce soit les routiers, les bouillons, c'est plus ancien.
Disons, les néo-routiers.
Voilà,
c'est
les nouveaux
pas
routiers.
C'est pas la même chose que les vrais routiers, où il y a effectivement des routiers qui s'arrêtent, là ce sont des néo-routiers.
Ouais, exactement. La différence, c'est qu'il y a dans les nouveaux routiers, il n'y a pas de routiers en général, parce qu'ils sont dans des villes pas accessibles en camion, tout simplement.
En trottinette, éventuellement.
Voilà, c'est ça, c'est les routiers auxquels on va en trottinette électrique. Et donc ces formats populaires qui ont été réinventés par cette jeune génération, sont une forme d'hommage décalé à une époque révolue, mais c'est aussi une adaptation à l'époque. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que quand vous allez dans un bouillon ou un routier d'aujourd'hui, branché, vous aurez un menu sans gluten, vous aurez une option VG.
Il y a le Wi-Fi,
et on fumera pas de gitane au comptoir. Voilà. Donc, c'est aussi ce que je veux dire, c'est que la réinvention de l'authenticité, c'est aussi quelque chose de, encore une fois, de vertueux, je sais pas, mais c'est quelque chose de nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, la fidélité historique à l'original, ça serait une expérience désastreuse pour la plupart des consommateurs.
Noah Berger, expliquez-moi, j'insiste encore un tout petit peu là-dessus, mais expliquez-moi en quoi ce phénomène concerne ma mère, qui n'a jamais mis un pied chez Big Mama, qui ne va pas dans les néo-routiers, qui n'est pas sur Instagram. En quoi est-ce que ça concerne tout le monde ?
En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que la notion d'authenticité est devenue tellement répandue, tellement populaire, qu'elle concerne finalement tout le monde. C'est ma réponse aussi à monsieur. Et c'est que, est-ce qu'on ne cherche pas aussi l'authenticité émotionnelle dans la télé-réalité ? Est-ce qu'on ne cherche pas l'authenticité émotionnelle dans la musique hip-hop ? La quête, finalement, d'un objet, d'une personne qui est fidèle à soi-même ou à des techniques, à des usages qu'on a définis comme étant authentiques à cet objet, est-ce qu'elle n'est pas partout ? Et c'est pour moi pas plus du tout le domaine d'une classe moyenne élevée qui cherche, qui va au restaurant de luxe, qui boit du café artisanal, mais une recherche contemporaine de quelque chose qu'on considère comme fidèle. Et justement, pour moi, le commentaire de monsieur prouve celui-là, parce que il dit, je connais bien des personnes authentiques. Qu'est-ce que c'est authentique? C'est-à-dire que c'est une notion qui est mise en valeur, qui est recherchée, et aussi dans la musique populaire, aussi dans la télé-réalité, partout, finalement, cette fidélité.
Virginie Bréjon, une réaction ?
Bah oui, en effet.
À ce que nous reproche l'auditeur et à ce que vient de dire Noah Berger ?
Là, on est un peu en train de faire un procès du marketing comme on l'entendait. Et en effet, c'est ça, c'est que le bon marketing, c'est quand il n'y en a pas. Et donc, en fait, c'est le procès de l'ancien marketing. Et un bon marketing, c'est un concept qui répond aux besoins des consommateurs, qui est bien installé dans son environnement, dans son territoire. Et dans ce cas-là, si c'est bon, si les gens sont sympas, si l'endroit est pratique, et si on passe des bons moments, on va y aller, on n'aura pas besoin d'avoir de la pub, on n'aura pas besoin de faire tout un tintouin autour du concept. Donc vraiment, j'invite les gens à créer des concepts qui n'ont pas besoin de marketing pour que ça fonctionne tout seul. Après, il y aura toujours une niche, et ça, cette niche-là, elle perdurera, et le snowboard, mais il y en aura toujours, et ça fait partie aussi de la culture, et ça, on sort un peu de la restauration, de l'alimentation pour en faire de la culture.
Jean-Laurent Cassidy,
je voulais rajouter quelque chose, c'est que c'est vrai qu'un des paradoxes, c'est que c'est la population la plus moderne, enfin la plus en phase avec la modernité et le progrès, qui est la plus obsédée aujourd'hui par l'authenticité.
Qui est la plus réac, même peut-être, non ?
En fait, c'est un des paradoxes, effectivement, c'est que, il faut que j'arrête de dire paradoxe à chaque fois que je réponds, mais c'est vrai que pendant longtemps, ce qui était réac était ce qui était vieillot, ce qui était ringard, ce qui était dépassé, et à l'inverse, on était plus dans un discours qui valorisait la modernité, le futur, la haute technologie. Et aujourd'hui, on voit que ces populations-là, typiquement, les gens qui mangent dans des restaurants type Big Mama, c'est plutôt des gens qui sont jeunes, qui travaillent dans des startups. C'est vrai que là, il y a tout un paradoxe aussi très contemporain, qui est que on pourrait croire que l'authenticité, c'est un thème passé, c'est un thème réac, effectivement. Et en fait, plus uniquement. C'est aussi un thème qui touche de nouvelles couches de population qu'on aurait dit il y a encore 10 ou 20 ans complètement immunisées contre la nostalgie de l'authenticité. Et ça, je trouve que c'est un nouveau courant qui s'exprime et qui s'ajoute, qui s'empile aux précédentes couches d'authenticité.
Virginie Bréjon, vous lirez tout. Je rajoutais quelque chose.
Oui, je pense à mes clients ou à mes élèves qui développent des concepts qui ont en fait plusieurs facettes, en effet. Et donc, on va avoir certes un restaurant étoilé dans lequel on va aller une fois tous les ans, tous les cinq ans, peut-être une fois dans sa vie ou peut-être jamais aussi. Mais il va raconter une histoire, il va faire des bouquins, il va avoir une boulangerie, une pâtisserie. Je pense à Olivier Rollinger qui a préfacé mon livre qui est à Cancale et qui fait aussi des épices. Et en fait, ces épices, par exemple, c'est un moyen d'enchanter son yaourt au petit déjeuner le matin.
Enchanter son yaourt. Comment est-ce qu'on enchante son yaourt ? Mon yaourt, je le mange. Mais comment je peux faire pour l'enchanter ?
Comment on enchante son yaourt, par exemple ?
Pardon, mais ça, c'est vraiment du jargon marketing.
Ouais,
enchanter son yaourt.
Enchantement, ravissement, tout ça. Bah oui, c'est du mot marketing, mais en même temps, c'est ce qu'on cherche. En effet, on est dans l'émotion aussi. Et en fait, on peut se faire peut-être encore plus plaisir en achetant un yaourt de marque de supermarché. nature, bio, mais pas très cher. Et on a un pot d'épices. Donc là, je vais parler de la poudre des Bulgares, voilà, d'un chef. Et on va mettre une petite cuillère le matin. Et puis tout de suite, le yaourt, il est exceptionnel parce qu'on a mis soi-même cette petite poudre et on l'a choisi savamment. Et il est peut-être mieux que le yaourt super haut de gamme qu'on a acheté en supermarché. Donc c'est cette façon d'enchanter, c'est de se dire qu'on fait partie un peu de l'expérience de ce qu'on va manger. On le personnalise à la fin parce qu'on a choisi le petit truc. C'est un peu
donc
aussi
manger un yaourt est une expérience. Moi, je vous trouve assez bienveillant avec ce phénomène. Et pourtant, Jean-Laurent Casselli, vous avez déclaré un jour dans une interview, les hipsters ne tiendraient pas dans un troquet avec de vrais gens à la Jean Gabin. Noa Berger, c'est quoi des vrais gens à la Jean Gabin? Et puis Jean-Laurent Casselli réagira à sa propre citation, mais.
Et bonne question. Je sais pas exactement ce que vous vouliez dire,
cette
mais.
Cette notion de vrais gens et.
Bah, alors, moi, en tant que sociologue, j'ai envie de m'opposer à cette notion de vraies personnes. Pour moi, l'authenticité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas une vraie chose. L'authenticité est par définition contextuelle. C'est-à-dire, est-ce qu'une personne correspond ou pas à ce qu'on a défini pour elle? Comme les manières dont elle devrait se comporter. Et donc, encore, pour revenir aux commentaires de monsieur, on peut vraiment trouver l'authenticité dans ce qui est soi-disant populaire. Et justement, quand quelque chose
va être... Je précise, monsieur, c'est Fred, notre auditeur.
Oui, qui, exactement, qui commentaire de l'éditeur, pardon, ça fait un petit moment déjà. Mais quand quelque chose est considéré comme populaire, il peut justement... et être qualifié aussi d'authentique parce qu'il est populaire, parce qu'il est à l'origine et à la source de quelque chose, parce qu'il fait partie, on l'a dit tout à l'heure, du patrimoine et d'une certaine culture. Par exemple, on peut considérer que McDo, qui est vraiment une chaîne très standardisée, très 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 loin de l'idée de la nature et de tradition, est authentique parce que ça représente et la culture américaine du sud des États-Unis ou la culture populaire.
Jean-Laurent Casselli, c'est quoi donc les vrais gens à la Jean Gabin?
Alors, je pense que c'était une citation écrite, donc on ne voit pas qu'il y avait des guillemets dans les guillemets. C'est-à-dire que c'est vrai quand j'emploie.
Non, mais c'est vrai quand j'emploie vrais gens,
c'est ironique parce qu'on sait très bien que les vrais gens, c'est à la fois une manière de décider ce qui est vrai et ce qui est faux, alors qui on est pour décider qui sont les vrais et les fausses personnes. En revanche, il y a quand même un phénomène que j'ai observé, c'est que les consommateurs qui recherchent l'authenticité aiment les endroits où il y a des vrais gens, selon eux. Donc c'est quoi un vrai gens? C'est quelqu'un qui picole un petit coup le matin à 11h au comptoir, qui raconte des blagues.
Oui, c'est le cliché absolu.
C'est le cliché du troquet à la française, voilà, où tout le monde se connaît, où les gens se font des blagues, où il y a une ambiance à la fois bon enfant, populaire, et puis surtout pas trop sans chichi, quoi. Voilà,
dans son jus,
exactement. Ouais. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que donc ces consommateurs-là sont en recherche de lieux dans leur jus, avec des vrais gens, mais on voit bien que c'est un petit peu comme la malédiction du touriste, quoi. C'est-à-dire à partir du moment où le premier touriste arrive dans un endroit
authentique... Oui, on va parler du tourisme voilà. En détail après, mais continuez.
C'est vrai que les vrais gens ne recherchent pas de lieu authentique, parce qu'en fait, ils sont dans un lieu authentique et ils se posent pas la question. C'est un peu tout l'enjeu de cette consommation authentique, c'est comment on peut être dans un endroit qu'on estime vrai une fois qu'on a fait la démarche de le recréer, de le rechercher, d'où toutes ces listes de bonnes adresses très cool, secrètes, que personne ne connaît, qu'on vous donne dans chaque ville.
Et que tout le monde se partage sur
Internet, sur tous les sites, et donc on retrouve, comme on retrouvait les gens du Lonely Planet et du Guide du Routard, à l'autre bout du monde, on retrouve les gens des sites Internet au café du coin, quoi.
Noa Berger, j'ai entendu que vous étiez en train de rédiger une thèse sur le café. Alors, je suis désolée, la transition, elle est super facile. Mais je m'en suis saisie, on écoute Coffee Burning.
On the street, tank top in the heat, jeans, pants and Crocs, no socks left on me feet, knapsack with me a beat, well pack up on the need, stay woke, no sleep, me no little book keep. Money pa me mind, but me never have a kind. Now cause me just a hustle for the pretty dollar sign. I never no fun time, life rough sometime. But me know me and me mommy happy, see the sunshine, that's why me
come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up higher and keep it burning. beater. Mommy say be doctor, granny say be preacher. Want fi be a rasta, daddy say be neater. Peter never like that, so him take the streets. Everybody born with a talent to fi feature. Blessings in abundance, so we fi cherish each. Never be ungrateful, life is such a teacher. Coffee pan upset a track, see me bring the heat, yeah.
Come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up higher and keep it burning. It's a burn like a tire, me have a burning sun. And if we try to retire, me leave them yearning. None can hold my flame. No, he can't quench, can't cool, can't tame. Since the devil don't like it, himself will turn it down. So me just give him the fire and make it burn it.
Run up and down, have them a run up and down. Yeah, coffee with the dance sound. Anytime he come round, a madness panic compound. Man a ton, fool a ton, clown.
But judge a cover my journey, I beg you guide it. And any trouble me see, help me avoid it. Me no say anything me need, God will provide it. Anyway, still what a time, lead me beside it. Come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up higher and keep it burning. It's a burn like a tire, me have a burning sun. And if me try for retire, me leave them yearning. None can hold my flame. No, he can't quench, can't cool, can't tame.
C'était Coffee Burning, je balance, ça fait danser nos invités dans le studio. Merci à Thierry Dupin qui signe la programmation musicale.
Le débat du midi, Nadia Dame sur France Inter.
Je vais encore une fois devancer une remarque qui pourra nous être faite, c'est que ça reste peut-être un débat un petit peu parisien. Virginie Bréjon, est-ce que c'est un débat absolument parisien ou est-ce que ça concerne aussi la France périurbaine, les territoires? En quoi est-ce qu'on peut délocaliser le débat qu'on a là à l'échelle de la France?
Alors premièrement, on peut glisser du parisien aux grandes métropoles françaises où on a quand même un phénomène d'hipsterisation, de ce qu'on appelle de gentrification, c'est-à-dire de d'adaptation des tendances, en bourgeoisement,
oui,
Marseille, Bordeaux, moi je viens de Rennes, à Rennes aussi, on voit ça, et puis dans plein de grandes villes de France. Et donc là, on va trouver des mécanismes très similaires. Et puis il y a aussi une authenticité qui n'est pas l'authenticité urbaine du centre-ville, mais qui est aussi l'authenticité des beaux lieux qu'on va retrouver dans le tourisme. Donc moi, pareil, je vais encore parler de moi parce qu'on a dit qu'on était que des Parisiens autour, dans le studio. Bah non, moi je suis bretonne et fière de l'être, et authentiquement bretonne. Et donc j'habite dans un des plus beaux villages de France qui s'appelle Saint-Suliac.
Donc c'est ça, quand vous dites un beau lieu, c'est quoi, c'est ça, c'est...
Bah pareil, un beau lieu, vrai gens, tout ça entre guillemets. Ouais. Mais c'est ce que les gens ont estimé comme étant un beau lieu parce que bah il y a un paysage qui est remarquable. Il y a de l'eau, que ce soit un fleuve, que ce soit la mer. Il y a de l'architecture qui est authentique parce que ancienne potentiellement, et puis quand il y avait des anciens entrepôts, bah on les a mis en valeur et puis on a fait une espèce de construction moderne autour pour mettre tout ça en valeur. Et donc ces lieux-là, bah c'est une autre authenticité. On va pas avoir le fast casual comme on dit, donc cette espèce de coffee shop, des cafés,
beaucoup de mots anglais en un seul mot. C'est quoi, fast casual?
Les coffee shops, bah oui c'est pareil, c'est encore un mot anglais. Donc c'est une espèce de café où on va manger de la cuisine qui est pas du tout localisée, mais qu'on pourrait manger partout dans le monde, mais quand même
standardisé.
Avec des ampoules standardisées.
Ouais, existe en français.
Tout à fait. Et qu'on pourrait quand même avec des ampoules à filaments, des murs en briques. Et ben là-bas, l'authenticité, c'est pas ça. Ça va être une façon un peu revisitée du patrimoine local. Ben on va manger, on va aller au Cap Ferret dans des cabanes à huîtres, manger des huîtres avec des petites cabanes en bois, etc.
Encore une fois, quand on a les moyens d'aller manger des huîtres au Cap Ferret.
Complètement.
Jean-Laurent Caselli, c'est cette fracture, ce qu'on appelle la France moche, ça fera d'ailleurs l'objet d'un débat de midi. Ça, effectivement, quelque chose à voir avec ce phénomène qu'on décrit, l'esthétique du paysage français?
Oui, complètement. Alors, je ne suis pas allé manger des huîtres au Cap Ferret cet été, mais je suis...
Tout le monde ne vit pas dans la France des petits mouchoirs, c'est ce que je voulais dire.
Exactement. Mais je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit, à savoir que c'est difficile de pas parler là de la carte et le territoire, le roman de Michel Houellebecq qu'on cite souvent quand on parle d'authenticité en France, parce que à la fin du roman, il imagine que la France est devenue un pays entièrement touristique, une sorte de parc à thème de la France, la fin se situe dans un petit village du centre de la France où en fait énormément de touristes passent et énormément de gens d'étrangers se sont installés et en fait ont recréé une France de carte postale, une France complètement fantasmée, avec des petites traditions remises au goût du jour, des petits métiers artisanaux, et bon, alors c'est une sorte de prospective sociale de ce que pourrait devenir. C'est un peu un cauchemar de l'authenticité poussée dans ses moindres retranchements. Et c'est pour ça que l'authenticité, surtout dans l'histoire, dans le cas français, c'est quelque chose qui est très lié aussi aux racines paysannes, rurales de la France. Donc c'est pas du tout, en fait, à la base, c'est pas du tout un thème urbain, moderne. Ça fait quelques années qu'on a vu ce glissement-là. Pendant longtemps, l'authenticité à la française, c'est ce que disait Virginie, c'est-à-dire c'est le petit village, c'est le beau village, quoi. Voilà, le beau village de carte postale, avec
ce son petit centre. Et de manière donc opposée à ce qui serait grand et à ce qui nous submerge, la grande ville.
Oui, et je dirais également ce qui est beau à ce qui est laid, parce que, alors, même si c'est subjectif, on sera, je pense, à peu près toutes et tous d'accord autour de la table pour départager les endroits beaux et les endroits moches. Et pour moi, le problème se situe dans tout l'entre-deux, qui n'est ni les grandes villes qui ont fait l'objet d'un grand ripollinage, ni les villages qui sont montés en gamme et qui sont devenus des produits touristiques absolument hors de prix.
L'entre-deux, donc.
Tout l'entre-deux, en fait. Tout l'entre-deux qui est, c'est effectivement, c'est ces endroits qu'on voit peu, qu'on met peu en scène, qu'on photographie peu sur les réseaux. Et voilà, et parce que ce sont des endroits qui sont un peu les oubliés de l'authenticité, dans le sens où ils ne forment pas un décor, ils ne forment pas une bonne mise en scène.
Vous venez d'employer le mot réseau. On peut dire tout simplement Instagram, parce que c'est peut-être Instagram qui a un rôle là-dedans. Noah Berger, oui, comment analyser le rôle et l'effet qu'a la vie numérique sur la vie réelle et sur les modes de consommation?
Alors, un énorme effet est probablement l'un des mécanismes qui participe dans cette diffusion de cette idée très très majeure de cette recherche, de cette quête d'authenticité, parce que chacun et chacune devient aussi producteur et d'images, d'émotions, et ça devient une scène sur laquelle on peut et se jouer, se présenter comme authentique,
ouais,
mobiliser, et cette notion d'authenticité pour dire on consomme de la nourriture authentique, on va à des lieux uniques, singuliers, et donc ça nous dote aussi de quelque chose d'authentique, de spécial, d'unique. Et c'est une plateforme qui joue énormément dans la diffusion de cette notion.
On reçoit beaucoup de réactions d'auditeurs. Je vous en cite deux. D'abord celle de Sandra qui nous demande si ce phénomène, ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est accessible à tout le monde. Virginie Bréjon, est-ce que c'est un marché lucratif et cette ce marché de l'authentique, ça a fait flamber les prix, ça coûte plus cher, tout simplement.
Alors, tout dépend si on se demande, est-ce qu'une pizza coûte plus cher aujourd'hui à Paris? Oui, aujourd'hui,
la pizza
va être d'entrée de gamme à 15 euros, alors qu'avant, elle était à 10 euros. Donc, elle coûte plus cher. Mais si on se demande, est-ce que manger des produits de qualité, ça coûte plus cher aujourd'hui à Paris? Pas forcément, parce que du coup, dans cette pizza, on va avoir des produits d'une qualité qui était avant inaccessible, parce qu'on les retrouvait que dans les restaurants gastronomiques. Donc, tout dépend le spectre qu'on a, et tout dépend du coup ce qu'on vient chercher. C'est un peu le glissement qu'on a eu de la gastronomie au culinaire, et c'était une question que je me posais avant d'écrire ce livre, est-ce que c'est le marketing de la gastronomie ou le marketing culinaire? Dans le culinaire, on va chercher la qualité, la créativité, le savoir-faire et le partage. Et ça, ça peut se trouver dans tous les segments de positionnement, d'un petit restaurant avec un menu à 12-15 euros, au restaurant qui va être à plusieurs centaines d'euros.
Une autre réaction, c'est celle de Mathieu, qui propose une piste de réflexion intéressante. Et voilà ce qu'il écrit. Une mode de bobos parisiens qui ont perdu tout contact avec la vraie vie. C'est pas du tout le message que je voulais vous lire. Je l'ai perdu, mais c'est quelqu'un qui demandait.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
C'est une personne, je l'ai lu, je l'ai jeté à la poubelle, pardon. C'est une personne qui demandait ce que ça disait de la quête du lien, cette manière de consommer. Est-ce que, Noah Berger, on recherche à, de manière peut-être un peu vaine, à recréer du lien en consommant de cette façon?
C'est un point extrêmement pertinent parce que la manière la plus répandue pour comprendre l'authenticité, c'est une manière de renouer des liens rompus.
C'est-à-dire oui, l'auditeur disait un lien qu'on aurait perdu.
Voilà. Donc l'idée aussi, pour expliquer pourquoi l'authenticité est aussi populaire aujourd'hui, c'est cette standardisation, les produits de masse qui perdent en unicité. On en parle déjà dès le début du XXe siècle, Walter Benjamin, même Karl Marx en parle déjà à la fin du XIXe siècle. Et l'effet de la standardisation, c'est-à-dire les objets deviennent trop similaires et l'un de l'autre, surtout avec avec la mondialisation et donc l'authenticité comme la recherche d'unicité, comme quelque chose qui va nous permettre quand même de distinguer entre les choses et de renouer les liens, y compris sur les filières de production. Mmh. C'est-à-dire, on a une visibilité sur la provenance, sur l'origine, on fournit un lien émotionnel avec les produits, avec les personnes.
Jean-Laurent Casselli, à quelle angoisse collective cette quête du vrai correspondrait? Est-ce que c'est juste de parler d'angoisse collective?
Oui, alors je pense que la réaction de l'auditeur tombe vraiment à point nommé, parce que je vais revenir là-dessus, parce que la notion de lien social est fondamentale, je pense, dans l'authenticité.
C'est Mathieu.
Si je reviens à mon exemple de grand-mère, effectivement, pourquoi cette obsession autour de la figure de la grand-mère dans la restauration? Parce que derrière, il y a l'idée que la grand-mère, quand elle fait à manger, elle le fait pas pour l'argent. Elle le fait par gentillesse, par altruisme.
C'est du réconfort, peut-être, qu'on cherche. C'est du réconfort. Parce que la grand-mère, c'est la figure même du réconfort.
Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ces restaurants, qui sont des entreprises, hein, tout simplement, finalement, ce qu'on vous vend, c'est l'idée que on fait pas les choses pour l'argent. On les fait pour plus que ça, pour recréer du lien. D'ailleurs, très souvent, dans ces restaurants, on vous dira souvent dans la presse spécialisée, c'est une bande de copains, une bande de potes, c'est la clique de machin truc, voilà. Et donc en fait, ils sont sympas, ils sont entre eux, ils s'aiment bien, et puis ils font ça pour le plaisir, quoi. C'est pas pour l'argent. Donc vraiment, il y a ce glissement sur cette idée. Alors là, pour le coup, je suis d'accord, un peu fausse et un peu trompeuse, qui est que on ferait les choses pour le plaisir, et avec aussi cette nostalgie d'un lien social perdu, qui est, encore une fois, il faut le rappeler, complètement fantasmé, puisque si on était plongé là, maintenant, dans un bar des années 70, je pense que ça serait pas exactement comme on l'a recréé dans nos souvenirs, quoi.
On a beaucoup parlé d'alimentation et d'urbanisation, mais ce phénomène, il se déclinerait également dans le tourisme, Noah Berger. De quelle façon? Il y a plusieurs auditeurs qui nous demandent effectivement ce qu'on va chercher quand on va faire une expérience supposément unique à l'étranger, et qu'il n'est pas tant que ça, vu qu'on est 5000 Français sur la même île.
Alors, ça s'articule de deux manières, je trouve. Il y a d'un côté l'expérience émotionnelle qu'on va vivre en voyageant à l'étranger. Est-ce que ça va projeter ou dire sur nous? C'est-à-dire, on va chercher à renouer les liens avec nous-mêmes, par exemple. On va chercher à vivre une expérience émotionnelle authentique, à se connecter avec quelque chose qu'on aura peut-être oublié ou perdu, et à aussi montrer qu'on fait quelque chose de singulier, d'unique encore, que d'autres personnes ne le font pas. Et de l'autre côté, il y a la recherche d'authenticité, qui est aller à des lieux, entre guillemets, traditionnels, où là, je trouve, il y a des implications aussi problématiques, qui impliquent, par exemple, quelque part, la marchandisation de personnes, parce qu'on va avoir une image de ce que c'est qu'un pays ou un paysage authentique ou ethniquement authentique, ou même un restaurant.
Il y a une forme d'arrogance à décider de ce qui est authentique ou pas.
Tout à fait, parce que c'est nous qui décide, qui qualifie que cette personne adhère à notre...
Oui, elle est pittoresque.
Exactement, ouais. Elle est pittoresque, elle fait partie du paysage, de ce qu'on imagine, que ce qu'on qualifie. Et en faisant cela, on met aussi de la distance entre nous et cette personne. Parce que quand on qualifie quelqu'un, quelque part, comme authentique, on dit « cette personne est éloignée de nous-mêmes, est différente ». Et c'est quelque chose qu'on cherche à accéder.
Virginie Bréjon, une réaction brève?
Oui, c'est pour ça qu'en marketing, on parle d'authenticité perçue et pas d'authenticité, parce que justement, on assume cette distance.
Le ressenti.
En fait, on répond aux attentes du voyageur. Et que, pareil, la cuisine aujourd'hui, elle est à penser dans un espace social alimentaire où on va être dans le restaurant, on va être dans le village dans lequel il se situe, etc. Et donc, le tourisme devient tourisme culinaire et on est dans des expériences beaucoup plus larges.
Il est midi 53, on va être dans Roméo Elvis, Soleil.
Inévitable et vital. Je pensais toujours au best que j'arrive pas à gagner. Aujourd'hui c'est la même, mais mon esprit est en paix. Depuis que je suis avec toi, avec toi. Depuis que je suis avec toi, avec toi. Je regarde plus jamais l'heure, sauf pour savoir quand t'arrives. T'es la seule chose dont j'ai peur, la première place dans mon cœur. Mais je suis trop bien avec toi, avec toi. Mais je suis trop bien avec toi, avec toi. Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. T'es un petit croco, le soleil renaît dans ma vie. Y'a pas de quiproquo, le soleil renaît dans ma vie. Et oh, comme ça, regarde.
un idéaliste, je peux pas cacher tout le mal par le bien que je réalise. Mais je nous vois dans le temps, plus avec toi qu'en solo. J'ai compris que c'était bon le jour où tu m'as fait la bise. Depuis que je suis avec toi, avec toi, avec toi, avec toi. Et depuis que je suis avec toi, avec toi, avec toi, 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 toi. Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. T'es un petit croco, le soleil renaît dans ma vie, y'a pas de quiproquo, le soleil renaît dans ma vie. Et oh comme ça, regarde tout droit, une pour elle, une pour lui, une pour moi. Et oh comme ça, regarde tout droit.
Et une pour nous aussi, c'était Roméo Elvis, Soleil. On approche de la fin de cette émission, mais j'ai une toute petite dernière question à poser à mes invités.
Le débat de midi sur France Inter.
C'est ma question rituelle du mois d'août. J'aimerais savoir avec quelle personne, vivante ou disparue, célèbre ou anonyme, vous aimeriez débattre, Noah Berger. Tiens.
Alors moi, j'aimerais bien continuer le débat avec Luc Poltanski, qui est bien vivant et avec qui j'aimerais discuter davantage de ce sujet.
De quoi, précisément?
Alors, il a fait des travaux extrêmement intéressants sur tout ce qui est l'enrichissement et la manière dont on mobilise le passé pour créer de la valeur et distinguer entre des marchandises.
Virginie Bréjon, avec qui est-ce que vous aimeriez passer un moment ou la nuit pour débattre ou pas?
Alors la nuit en ce moment beaucoup, mais avec ma fille qui a 2 mois, qui est née le jour de la sortie de mon livre. Et peut-être que dans quelques années, elle me dira que j'ai raconté plein de bêtises et que c'est pas du tout ça ce qu'ils veulent aujourd'hui dans les restaurants et au quotidien dans leur cuisine.
Jean-Laurent Casselli.
Oui, alors je savais pas qu'on avait le droit au personnage historique, mais j'ai choisi...
Vous avez tous les droits.
Non, mais en fait j'avais choisi Anne Hidalgo, parce que je serais curieux de débattre, d'avoir son avis sur l'évolution de Paris, qui est à la fois une ville extrêmement authentique et extrêmement hors de prix. Ouais. Donc je serais curieux de débattre avec elle.
Vous pouvez débattre avec elle sur Twitter, il y a plein de gens qui le
pourquoi
font.
Pas.
Merci à tous les trois, merci à Lucie Lemarchand qui a réalisé cette émission. À la technique aujourd'hui, c'était Théo Gomard et Florent Layani. Demain, on va vous parler de votre enfant. On va se demander comment parlent les jeunes aujourd'hui. Wesh.